Pour ce nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé, nous avons le plaisir d'avoir Interaction Healthcare, spécialiste de solutions e-santé, comme partenaire. Alors en quelques mots, l'ADN de l'équipe de Interaction Healthcare est d'imaginer de nouvelles expériences avec des solutions digitales, utiles pour les patients et les professionnels de santé en s'appuyant sur toutes les innovations technologiques qui nous entourent. Comme vous le savez certainement, chaque début d'année, Interaction Healthcare offre aux acteurs de la santé une conférence sur les grandes tendances de la e-santé. Je vous invite donc à retrouver le replay vidéo de l'édition 2021 qui était passionnante sur leur site interaction-healthcare directement depuis votre moteur de recherche ou via le lien dans la description de cet épisode. Sans plus tarder, place à un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Bonne écoute! Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans ce premier épisode de la masterclass d'entreprendre dans la santé sur les fonds en santé digitale, j'échange avec Catherine Boul, managing partner de la société de gestion Carista. Les fonds gérés par Carista depuis plus de 20 ans sont spécialisés dans les investissements early stage et ont permis d'accompagner plus de 90 entreprises dès le début de leur aventure en seed ou en série A, notamment via des tickets entre 500 000 $ et 1,5 million, ainsi qu'un investissement pouvant atteindre les 4 millions de dollars. À l'origine généraliste avec une branche santé, ayant accompagné des sociétés comme Voluntis, Incepto, Implicity, Nanobiotics, DBV Technologies, Carista a récemment déployé un fonds de 50 millions d'euros pour investir dans la santé digitale et accélérer l'innovation dans cette verticale très prometteuse. Dans cet épisode, Catherine nous explique quels sont les critères d'investissement de Carista dans la santé digitale, qu'est-ce qui fait la différence entre Carista et les autres fonds, et comment se préparer à lever des fonds dans la santé digitale. Bonjour et bienvenue sur la masterclass du podcast Entreprendre dans la santé sur le sujet des fonds en santé digitale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Boul. Bonjour Catherine, ça va ?
Bonjour Jean-Baptiste, ça va bien, merci.
Merci à toi d'avoir accepté du coup cette invitation à participer à cette masterclass. Je vais te proposer pour commencer tout simplement de te présenter, toi nous dire qui tu es et puis après on va parler un petit peu de Carista et tout simplement de l'investissement dans la santé digitale. Est-ce que ça te va ?
Ça me va très bien, merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi je suis Catherine Boul, donc je suis la directrice générale de Carista qui est une société de gestion française qui fête ses 20 ans cette année. Mon parcours en deux mots, donc j'étais il y a très longtemps biologiste moléculaire. J'ai travaillé un petit moment à l'Institut Curie dans un laboratoire en oncologie fondamentale et c'était un peu trop fondamental pour moi et un peu trop long et un peu trop loin de l'applicatif, donc j'ai un peu tourné Kazakh. J'ai fait un MBA et j'ai rejoint un incubateur, c'était le démarrage des incubateurs en France à l'époque, et donc j'ai travaillé quelques années dans un incubateur et c'est en accompagnant un entrepreneur qui cherchait ses premiers sous, les premiers fonds, que j'ai rencontré à l'époque Cap Décisif, qui est devenu Carista en juin dernier, et que j'ai rejoint le fonds, puisqu'ils avaient pas mal de dossiers en biotech qu'ils ne savaient pas gérer. Cet entrepreneur et cette société-là, c'était Pierre-Henri Benamou et la société DBV Technologies, qui est devenue la licorne qu'on connaît aujourd'hui, côté au Nasdaq, qui développe des produits dans l'allergie alimentaire. Voilà.
Ok. ce que j'ai trouvé intéressant parmi mes recherches, j'ai vu que le nom du coup de Carista s'était inspiré d'un bateau qui était évoqué dans L'Archipel en feu, qui est un roman de Jules Verne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ce bateau qui est Carista aujourd'hui et nous expliquer un petit peu voilà ce que vous faites aujourd'hui?
Donc par rapport au nom, on a choisi ce nom notamment en référence à l'univers de Jules Verne qui nous correspondait assez bien, parce que Jules Verne, c'est un visionnaire qui a mis en avant l'innovation technologique en son temps. Il fait des voyages incroyables, des aventures formidables, et c'est un peu ça notre métier. Hein. Nous, on accompagne des entrepreneurs, des inventeurs, plus ou moins fous, on va dire. On est un bateau ou une petite barque, ça dépend des fois, et on est partenaire avec eux de cette aventure qui peut être longue et puis peut, comme avec des bébés, bien se terminer ou des fois qui est un peu plus compliqué. Donc, c'était vraiment cette philosophie-là qu'on voulait porter avec ce nom. Et peut-être pour en dire un tout petit peu plus sur Carista, donc on gère des fonds qui sont principalement dédiés à ce qu'on appelle l'amorçage, donc les seed et céréales, les investisseurs des tout premiers tours. Historiquement, on était plutôt des investisseurs généralistes. Hein, dans mon équipe, il y a des gens qui font de la santé, il y a des gens qui font du digital, des gens qui font du deep tech. Et récemment, on a lancé un fonds dédié santé digitale, donc qui est le fonds qu'on est en train de déployer en ce moment, et donc qui est un peu plus thématisé. Et ce qu'on trouve intéressant dans cette histoire, c'est que comme on a des compétences en santé et des compétences en digital dans l'équipe, on a un regard qui est particulièrement intéressant et original sur les dossiers, puisqu'on peut avoir les deux angles de vue, et c'est des fois absolument nécessaire sur ce secteur.
Ouais.
C'est un fonds qui fait 50 millions d'euros.
Ouais, ok, c'est important de le dire. Et donc toi, tu t'occupes, tu es managing partner pour la partie santé et santé digitale.
Tout à fait.
Et tu es même au board du coup de plusieurs de ces entreprises, et tu es passé par le board de plusieurs autres qui ont réussi pour certaines.
Alors oui, quand tu es investisseur, souvent tu es au board, pas toujours. Nous, on y est toujours, puisque c'est notre philosophie aussi, d'autant que comme on est des investisseurs de premier tour, en général, on est les tout premiers à investir dans les entreprises, donc on est toujours au board, et puis on suit ensuite les sociétés dans leurs épisodes d'après. Et du coup, évidemment, je suis board member au même titre que mes collègues, hein, d'ailleurs. Et ce qui est important, c'est de comprendre que comme on est les premiers investisseurs, souvent on est les premiers à croire aux entreprises et aux histoires que les entrepreneurs nous exposent, et ça crée un lien très particulier avec ces dirigeants. Donc, d'abord parce que on est les premiers à y croire, mais aussi parce qu'on les accompagne longtemps. Comme on est en seed, investisseur, ensuite on doit revenir en série A, série B, etc. Ça peut durer longtemps, en particulier en santé, comme tu le sais. Du coup, on accompagne ces gens-là dans leur croissance pendant 5, 10, des fois plus que ça, années, quoi. Donc c'est un lien particulier.
Justement, parlons un peu de ce lien et de comment vous allez le créer au tout début. Pour le créer, il faut déjà le trouver. Comment vous définissez un petit peu qu'est-ce qui va faire le succès d'une entreprise dans le futur, et comment vous sélectionnez concrètement ces entreprises dans lesquelles vous allez investir?
C'est une bonne question. Je pense que l'investissement, c'est un métier d'expérience. Donc, on fait des choix qui sont portés par finalement les expériences qu'on a eues, heureuses ou malheureuses avant, dans d'autres investissements. Ça, c'est la première chose. Et puis, je vais un peu enfoncer une porte ouverte, mais globalement, surtout quand on est en amorçage, ce qu'on regarde, c'est l'équipe et la capacité des dirigeants, des fondateurs à bien s'entourer, à être réactif, à être opportuniste par moment, et aussi résilient. Donc ça, c'est vraiment les critères qu'on essaye de détecter chez les dirigeants, parce que c'est vraiment le facteur clé de succès, c'est leur capacité à bien réagir en fonction des situations, et c'est vraiment difficile, hein, ce qu'on leur demande de faire.
Ouais.
Après, si on rentre un petit peu dans le détail... Des dossiers en santé digitale, on en reçoit énormément en ce moment. Moi, j'en reçois deux nouveaux par jour. Donc, c'est vraiment, vraiment devenu à la mode. Il y a énormément de choses différentes, mais c'est vrai que ce qu'on cherche, en tout cas ce que moi je cherche, c'est un positionnement original qui répond à un besoin. Alors, dans notre secteur de la santé, le besoin, souvent, il est médical, ou en tout cas, il est d'améliorer l'offre de soins et le parcours patient, mais pas seulement, il y a aussi tout l'écosystème économique autour, qui va payer quoi pour gagner quoi, donc ça c'est aussi important. Donc ce qu'on cherche vraiment à déterminer, c'est le positionnement stratégique et pourquoi il devient ou il deviendra à un moment donné incontournable, et donc il amènera soit une session industrielle, soit une croissance en stand-alone à travers une cotation sur le marché boursier, etc. C'est vraiment important pour nous. Et puis il y a un autre sujet quand même que qu'on peut pas effacer, c'est le fit. Le fit avec les personnes avec qui tu vas travailler. Je viens de te dire que ça va durer 5, 10, 15 ans. Donc, si on peut pas se supporter dès les premières minutes, je pense qu'il faut pas le faire. Et tous les investisseurs ne peuvent pas travailler avec tous les entrepreneurs.
Et justement, donc ça, c'est une question que je me pose. C'est comment tu évalues ce fit est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui se passe? Est-ce que vous avez, je sais pas, c'est peut-être hyper éloigné de la réalité, mais une grille un petit peu où vous allez à la fois faire un test de la, une évaluation de la personne pour vous dire, ok, ça correspond avec avec notre mentalité. Est-ce qu'il y a vraiment des chiffres où tu vois, tu pourrais mettre une sorte de mesure derrière, quelque chose de un process derrière cette évaluation de la personne?
Je pense que c'est pour ça qu'on dit que c'est un métier d'expérience, mais globalement ça se rapproche un peu du recrutement quelque part. Alors évidemment on a des grilles, ou en tout cas on a des grandes lignes qu'on sait qu'il faut essayer de retrouver chez ces fondateurs, visionnaires, managers de start-up, mais globalement il n'y a pas tellement d'autres moyens que de passer du temps. En fait, il faut qu'on passe du temps avec ces gens-là, qu'on essaye de comprendre exactement ce qu'ils veulent faire, où ils en sont, où ils veulent aller, comment ils veulent y aller. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est faisable avec l'équipe qu'ils envisagent d'avoir? Ou est-ce que on est enfin en train de faire un rêve de bisounours, c'est que ça va être beaucoup plus compliqué, ce qui est souvent un peu le cas, mais en tout cas, il faut essayer d'évaluer ça. Et c'est pour ça que c'est un métier difficile, parce qu'en fait, on se trompe quand même. C'est comme un recrutement, c'est jamais gagné. Donc, on se trompe quand même, même quand ça fait plusieurs années comme moi qu'on fait ce métier-là, parce que c'est de la matière humaine. Et puis après, le fit, c'est aussi un partage de valeurs, quelque part. Le fait de comment envisager un business, est-ce que il y a que l'argent qui est absolument intéressant et le seul objectif, non, la façon de le faire, la façon dont on intègre aussi les autres membres de l'équipe, les salariés, même les plus petits ou les plus jeunes, l'objectif final de la société. Alors moi j'ai la chance d'être investisseur dans un secteur qui est la santé, donc qui est le secteur à impact selon moi par définition, même si il y a des débats là-dessus, puisque quand on améliore la santé des gens, je pense que quand même globalement c'est toujours mieux. Mais c'est vrai, quand on est investisseur plus globalement, ça peut être un peu moins évident de trouver sa motivation. En tout cas, nous, moi, c'est un de mes gros sujets de motivation, c'est d'investir certes dans des médicaments ou des produits de santé de demain pour aider finalement le plus grand nombre de personnes à être mieux pris en charge.
Est-ce que tu as des exemples concrets d'entrepreneurs ou d'entreprises qui sont vraiment sortis du lot? Est-ce que tu voudrais nous les partager pour en inspirer parmi les auditeurs?
Alors, on a eu la chance depuis 20 ans de travailler avec des gens. En fait, tous les dirigeants qui décident de créer leur start-up, c'est peut-être leur point commun, c'est des gens exceptionnels et extraordinaires. Il faut quand même avoir une volonté incroyable pour pouvoir pour décider de se lancer dans une histoire comme ça, un peu sauter de la falaise sans parachute, quoi. Donc ça c'est le point commun. Après, il y en a qui ont des vraies visions incroyables, fulgurantes, j'ai envie de dire, dès le démarrage. Moi, j'aurais envie de citer peut-être Pierre Laurent, qui est le fondateur et encore dirigeant de Voluntis aujourd'hui. Ça fait plus de 15 ans qu'il a lancé cette société, qui a vu la santé digitale avant tout le monde, quelque part, qui est une société pionnière sur le secteur. Nous, on a investi dans Voluntis en 2006, donc autant te dire que personne ne parlait de santé digitale. On n'avait même pas de smartphone encore. Je sais que là, je parle d'un temps absolument incroyable, mais quand même. Et ben Pierre Laurent, il pensait déjà que on pouvait faire des choses avec des logiciels et des softwares pour améliorer la prise en charge et pour que le patient soit plus aussi impliqué dans sa propre santé. Et on l'a accompagné, donc on a essuyé à peu près tous les plâtres possibles sur ce long chemin. Et lui, il avait toujours en tête dès la création de Voluntis en 2003 de mettre un produit, un logiciel, quoi, un software dans les mains du patient pour que celui-là il puisse le soigner. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avec les produits de Voluntis, d'abord en diabète et maintenant en cancéro. Donc cette vision-là et l'énergie de ces gens, alors il n'était pas tout seul, hein, Pierre Laurent, c'était une équipe évidemment, mais de ces gens pour arriver finalement où ils ont décidé d'aller il y a 15 ans, je trouve ça extraordinaire. Dans le même temps, je parlais tout à l'heure de DBV, Pierre-Henri Benamou, moi je l'ai rencontré Il était médecin gastro-entérologue dans sa clinique. Il soignait des enfants, il avait un problème. Ses enfants étaient allergiques aux protéines de lait de vache et il n'arrivait pas à le dépister. Et donc, il a décidé de créer son test de diagnostic. Tout seul, avec son frère, du plastique et de la poudre de lait, ils ont fait les premiers patchs dans leur garage. Enfin, c'est pas le garage, mais presque. Et là, après, il a lancé la société. Bon, il se trouve que maintenant, DBV, c'est une société qui fait surtout des traitements pour les allergies alimentaires aux arachides. Ouais. Mais voilà, il voulait faire ça depuis le démarrage.
Non, c'est des visionnaires, c'est sûr. Et c'est des beaux exemples de réussite. Est-ce que toi, tu vois des différences entre investir dans la santé digitale et investir dans la santé en règle générale? Est-ce que tu vois quelque chose qui doit être évalué différemment, par exemple?
Alors, la santé en général comprend pour moi la santé digitale, mais c'est vrai que c'est pas exactement les mêmes critères et les mêmes facteurs clés de succès. Surtout, je pense que la grosse différence, en tout cas d'après moi, c'est que on connaît assez bien le chemin de création de la valeur pour une entreprise de santé, de biotech. Maintenant, bon, c'était peut-être pas le cas il y a 30 ans, mais maintenant on sait que on avance, on développe un produit à chaque fois qu'on avance un petit peu vers la clinique puis vers le marché, on diminue le risque et donc on augmente la chance de succès et donc la valeur de l'entreprise. C'est pareil dans un équipement médical. Pour la santé digitale, c'est plus compliqué. Évidemment, il faut avoir un produit, évidemment, il faut qu'il fonctionne. Il faut que même il ait un certain degré de fiabilité si c'est un digital therapeutics. Mais pour que ce produit ait de la valeur, il faut aussi qu'il tienne en considération très tôt les usages de ce produit-là. Le fait qu'ils ne freinent pas des pratiques sur le terrain de médecins, d'infirmières, d'ambulanciers, où j'en passe et des meilleurs, sinon il ne sera pas adopté. Quand bien même il a un effet médical démontré. Donc ça, c'est quand même un peu différent de ce qu'on a l'habitude de traiter en santé classique, on va dire. Et l'autre sujet, c'est encore très récent. On commence à voir quelques sorties, surtout aux États-Unis. Donc, on sait qu'il y a des gros industriels qui sont capables de racheter des solutions, mais c'est le démarrage. Donc, on a encore peu de recul sur quel genre de potentiel, finalement, ces entreprises, elles peuvent apporter.
Oui, vers où ça mène. OK. Et donc, vous, quand vous investissez des tickets d'environ entre 500 000 et 1,5 million, c'est ça? Et est-ce que tu peux nous expliquer...
Après, on peut monter jusqu'à 5 millions par société.
Jusqu'à 5 millions, d'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer que ce qu'il y a outre ces investissements financiers que vous apportez aux startups justement concrètement, donc on parle de les accompagner sur la durée, jusqu'à 15 ans, au quotidien ou presque, comment ça se passe l'accompagnement quand Carista a investi dans mon entreprise?
Donc nous, on est des investisseurs qui sommes très présents au démarrage. C'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on fait. Donc on est probablement moins présents 15 ans plus tard quand même, parce que normalement, la société a accumulé des tours de financement. Il y a d'autres investisseurs qui arrivent avec d'autres compétences et d'autres réseaux et qui prennent un peu notre relais. Mais c'est pas pour ça qu'on parle plus avec les dirigeants. Hein. Mais en tout cas, on est peut-être moins présents et on est probablement plus au board. Donc ce qu'on apporte, bon, en dehors de l'argent j'imagine, c'est la première chose, c'est notre expérience, c'est-à-dire ça fait 20 ans qu'on est dans des boards de sociétés qui essayent de développer des technologies innovantes, que ce soit dans la santé ou dans le tech ou dans la deep tech, et on a vu à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables faites entre moi et mes collègues par ces dirigeants-là. Et donc on essaye d'apporter ce regard-là un peu de recul finalement, en décalé par rapport au dirigeant qui est le nez dans le guidon toute la journée, et essayer de lui faire prendre conscience d'un certain nombre de risques qui l'entourent. On a un peu comme un sparring partner par moment, surtout quand on est au tout démarrage et qu'on est parmi les premiers investisseurs. L'autre sujet, c'est tout ce qui est structuration de la société. On démarre, ils sont quelques personnes, et puis après, on monte en charge, on a besoin de rajouter des compétences. Nous, on accompagne les dirigeants autour de ça. Exemple assez récent, donc on a investi dans une société qui s'appelle Trickers, qui était créé au démarrage par un médecin, médecin au CHU Henri Mondor, dans la région parisienne, cardiologue, et qui voulait absolument créer un équipement médical de remplacement de la valve cardiaque du cœur droit, la valve tricuspide, mais qui voulait surtout pas être dirigeant de cette société. Donc on a financé la société et on l'a aidé à recruter l'équipe, le CIO et l'équipe ensuite de développement du produit qui aujourd'hui est absolument bien déployé, qui est implanté, il se trouve en Allemagne parce qu'il y a beaucoup de compétences dans ce secteur-là en Allemagne, et qui va faire ses premières implantations chez l'homme dans les prochaines semaines. Donc on est arrivé à une étape très cruciale pour la société. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, alors pas tous les jours parce que ça prend beaucoup de temps, mais qu'on fait très régulièrement. Une autre société qu'on a accompagnée plus récemment qui s'appelle Implicity. Donc là, on a fait le tour avec plusieurs autres fonds, hein, avec notamment Serena et Xange. Et on a aidé le dirigeant qui était encore, il se trouve, un médecin, à renforcer son équipe sur la partie tech et sur la partie business.
D'accord.
Notre quotidien.
Ouais. Et peut-être un autre juste sur...
qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, on a aussi un réseau de consultants, prestataires, partenaires. Ouais. Qu'on ouvre à ces startups, et l'avantage, c'est qu'on les a testés. Donc, ils gagnent du temps en allant tout de suite avec des gens qui, on sait, savent faire de la com, du réglementaire, de la prod, biotech, de haut niveau, etc.
Et concrètement, au quotidien, ça se passe comment ? Est-ce que cette relation, elle est, on va dire, organisée, c'est-à-dire que vous avez des rendez-vous pour échanger, je sais pas, un office hour toutes les deux semaines, ou est-ce que c'est au quotidien, en fonction des problèmes, voilà, vous allez recevoir des mails ou des appels ?
Évidemment, la réponse, c'est ça dépend, mais je pense que on a déjà des réunions entre guillemets régulières qui sont les boards, donc qui sont au démarrage souvent tous les mois et demi. Il peut y avoir des sociétés qui sont plus jeunes avec lesquelles on demande d'avoir des réunions plus régulières, des business reviews plus régulières entre chaque board. Puis quand les sociétés sont plus mûres, plus organisées, plus structurées, on écarte en général les délais entre les boards parce qu'on sent qu'on a moins besoin d'être présent. Et puis ensuite, il y a des pics d'activité. Typiquement, quand on refinance une société, d'un coup, on se parle très régulièrement parce qu'on met les dirigeants en relation avec les autres VC, parce qu'on discute de la stratégie, parce qu'il faut repositionner le slide deck, etc. Donc là, on a des pics d'activité, on s'appelle régulièrement. On s'appelle aussi régulièrement quand il y a des problèmes, parce que le board member, il n'est pas là que pour frapper des mains, tout va bien, c'est génial. Il est aussi là quand il y a des problèmes, quand il faut... typiquement, il y a un des associés avec qui ça ne se passe pas bien. Alors là aussi, c'est très, très classique. Bah, c'est le board qui accompagne le dirigeant dans cette étape-là. Typiquement, quand il y a eu la crise Covid, on n'est pas vraiment sorti de l'affaire, mais les associés, les administrateurs et les investisseurs retroussent les manches pour trouver les solutions de financement, pour accompagner les dirigeants dans ces périodes qui sont quand même très critiques. Donc voilà, c'est aussi ces périodes-là. Et donc, c'est des pics d'activité. Le tout, c'est de ne pas avoir tous les problèmes en même temps sur toutes les lignes du portefeuille, mais sinon, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça peut être, on a rarement, en général, on les a au moins une fois tous les 15 jours, les dirigeants.
D'accord, ok.
En période normale, on va dire.
Ouais, ce qui est quand même assez, assez régulier. On arrive vers la fin de notre discussion, Catherine. J'aimerais te demander, toi, qui a pas mal d'années d'expérience quand même dans la santé digitale avec Arista, et qui a notamment, je pense, acquis beaucoup de compétences à la fois à travers ta formation la vision de ces différentes entreprises. Quelle grande tendance as-tu pu observer dans le financement des startups en santé digitale ces deux dernières années ? Est-ce que tu as vu vraiment des choses qui sortaient du lot et vers quoi on se dirige dans le futur ?
Je pense que déjà, ta question elle est la bonne parce que... Tu sais, on a fait Volantis en 2006, donc on regarde ces sujets-là depuis longtemps. Et on a vu une accélération il y a 5 ans et une hyper-accélération depuis 2 ans. Et alors là, avec le Covid, c'est juste la folie. Donc déjà, première chose, c'est en termes d'offres, pour nous, investisseurs de ce secteur-là, on est très très bien servis. Après, il y a des thématiques un peu phares. Donc là, et puis il y a des buzzwords aussi. Mais dans les thématiques phares, Il y a eu clairement tout ce qui était télémédecine et téléconsultation. Donc, il y a eu, là, il y a 2 ans, c'est ça qui a beaucoup bougé et explosé. Aujourd'hui, c'est un peu moins les dossiers qu'on reçoit et on voit que le secteur commence à se consolider. On a eu beaucoup de sujets et on en a encore beaucoup autour de l'imagerie médicale. Donc là, c'est vraiment très booming aussi. Alors, il n'y a pas d'aire thérapeutique particulière, c'est vraiment l'imagerie en général. Pas mal de choses autour du cancer du sein, la cardio, la fracture des os, voilà. Et puis, plus récemment, moi j'ai reçu énormément de sujets sur l'ophtalmologie. Donc moi, je pense que un des points communs de ces sujets-là, c'est que les sociétés s'adressent à des secteurs de la santé dans lesquels les données sont standardisées.
D'accord.
C'est pas le cas de tous les secteurs, c'est le cas en imagerie, c'est un peu le cas en ophta, c'est aussi un peu le cas en anapath, donc on regarde les lames. Donc je pense que c'est un peu logique que les premières sociétés de ce nouveau champ d'activité soient dans ces secteurs-là. Mais on a aussi énormément de choses dans le parcours patient, les liens ville-hôpital, la gestion des ambulances, enfin voilà, des choses beaucoup plus, peut-être moins médicales, mais qui sont aussi importantes pour l'organisation de l'écosystème. Donc, voilà un peu, nous, on est à l'affût de toutes les bonnes idées. On aime bien les bonnes équipes et on aime aussi les sociétés qui ont un maximum de barrières à l'entrée. On vient de la deep tech, hein, moi je viens de la biotech, donc les sociétés de santé digitale, les barrières à l'entrée sont relativement faibles par rapport à des sociétés de biotech. Il y a rarement des brevets, donc même si il y a de la technologie et il y a de la science, voilà, souvent l'avance technologique, elle n'est pas immense. Donc on va chercher encore plus peut-être qu'avant des équipes qui sont capables d'exécuter de manière idéalement excellente, en tout cas avec un très bon niveau. Et si c'est pas le cas, on va chercher à les renforcer très très vite.
Donc, d'accord.
C'est un peu mes grandes tendances à moi en ce moment.
Et ben pour terminer cette discussion sur du coup les barrières à l'entrée. Donc c'est, la santé, ça peut durer très longtemps, ça peut coûter très cher quand on essaye d'innover, d'apporter de la valeur. Quels conseils concrets souhaiterais-tu partager à un entrepreneur en santé digitale préparant une levée de fonds afin d'exploiter les tendances que tu viens de mentionner?
Je pense que la première chose, c'est faut pas être tout seul, faut s'entourer et faut s'entourer de bonnes personnes. Tant pis si on prend un peu de temps pour trouver les bons associés et pour trouver les bons consultants ou conseillers qui peuvent te faire gagner du temps. Je pense que c'est vraiment important parce que quelqu'un qui nous évite de faire des erreurs de entre guillemets de démarrage ou de débutant et qui nous fera du coup gagner du temps sur le déploiement et le développement de la solution, c'est ultra important. Pensez tout de suite si c'est un produit qui doit être à un moment donné prescrit à la partie réglementaire, que comment ça coder un soft qui doit être marqué CE, ça a un impact fort le fait de la façon dont on code par rapport aux agences réglementaires. Donc ça, cette partie qualité réglementaire, il faut la penser tout de suite si ça fait partie du modèle. Pareil pour la clinique. Et puis nos sujets actuels, hein, nous investisseurs en santé digitale et en santé, mais en santé digitale particulièrement, c'est qui paye quoi. Donc ça, c'est bien d'avoir quand même une vague idée de comment ça va se passer, parce que sinon, ça risque de bloquer, quoi. Donc ça, c'est hyper important pour nous.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Catherine, en tout cas, pour tous ces conseils partagés et puis ton témoignage.
Eh, merci.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et à en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.